bien sûr.
C'est bon.
Bonjour à toutes et tous. On va déguster Rommel Couvert en ce dimanche avec un nouvel horaire dans la grille de crise de France Inter. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, 2h de direct pour dialoguer autour d'une de nos préoccupations premières en cette période de confinement, l'alimentation. Oui, car la crise sanitaire pourrait bien devenir une crise alimentaire. Comment les chefs, les acteurs du secteur, les associations s'organisent pour apporter une aide alimentaire à ceux qui en ont le plus besoin? Quelles solutions nouvelles pour aider nos paysans à écouler leur production saisonnière? Nous aborderons dans la première partie de cette émission les nombreuses initiatives solidaires qui voient le jour à Paris et en région. Et puis à partir de 10h, dans la deuxième partie de cette émission, nous mettrons la main à la pâte avec Julien Dubouet, un cuisinier qui va nous offrir en direct depuis son lieu de confinement une leçon de cuisine de placard, des recettes simples avec les moyens du bord, avec des produits de base et aussi avec le sourire, vous allez voir, pour faire de la cuisine une évasion et aussi une activité familiale. Vous êtes confiné mais vous avez des idées pour cuisiner, vous voulez aussi relayer des initiatives d'entraide dans l'alimentation, prenez la parole dans cette émission au 01 45 24 7000. On attend vos témoignages. Ils sont confinés mais je les déconfine par les ondes. Ce sont mes chroniqueurs et mes chroniqueuses que nous retrouverons tout au long de cette émission, Elvira Masson, Esther El Payani, notre chroniqueur vin Dominique Hutin, et puis nous accueillerons en fin d'émission aussi notre ami Laurent Delmas. De l'émission On aura tout vu pour une petite séance de cinéma gourmand. Cette émission spéciale a été préparée à distance avec Nadia Chougui. C'est Laurent Thomas qui la réalise en direct derrière la console avec Grégory Wallon à la technique. Pierre de Certaines et nos jeunes standardistes Théo et Bianca sont également sur le pont. Retrouvez d'ores et déjà notre carnet pratique très fourni. On vous a mis plein d'infos sur le site internet dont on va déguster. Retrouvez nos recettes, le podcast de l'émission sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Il est extrêmement important aujourd'hui que chacun et chacune reste chez soi pour éviter la propagation de l'épidémie. On a demandé aux restaurateurs, aux bars, aux cafés, aux discothèques de fermer ce qui a été appliqué.
Alexandre, il fait la peau.
Restez chez vous, mais sans penser au personnel médical qui galère et qui va galérer encore pendant un petit moment. Alors plus vite on sortira de ces crises et mieux on se portera. À bientôt, ciao.
Lavez-vous les mains, restez chez vous, comme disait le chef Philippe Etchebest. Certes, mais il faut aussi faire ses courses, s'approvisionner, s'alimenter. Autant d'activités quotidiennes et banales en temps normal, mais qui peuvent devenir de véritables parcours du combattant dans cette période de confinement. Heureusement, face à la crise, les bonnes volontés s'organisent, les initiatives solidaires fleurissent un peu partout en France. C'est ce qu'on va voir avec nos amis chroniqueurs qui ont repéré des idées très intéressantes. Je vous propose un rapide tour de table. Alors, ce tour de table est virtuel, évidemment, puisque vous êtes, chers chroniqueurs, je le rappelle, confinés à domicile. Esther El Payani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un peu cartographe ce matin ?
Oui, c'est ma passion en fait, hein, parce que je cherchais des cartes pour faire des courses au plus proche de chez vous.
Oui.
Donc depuis le début du confinement, ce sont les circuits courts qui ont morflé, notamment avec la fermeture des marchés. Mais il y a plein d'initiatives qui sont mises en place pour s'approvisionner près de chez soi sans passer par cette case. Évidemment, je rappelle qu'on sort uniquement pour faire les grosses courses, parce que les baguettes, ça se congèle et les légumes, ça se stocke. Et puis surtout, appelez toujours avant de vous déplacer. Donc la première carte qui a eu mon coup de cœur, c'est la carte collaborative Le Marché Vert qui a été lancée hier, qui répertorie des initiatives déjà existantes ou toutes nouvelles pour continuer à se procurer ces produits dans des AMAP, des épiceries paysannes, des points de collecte, des ventes à la ferme. Cette initiative de quatre de nos consoeurs, Jules Cousin, Zazie Tavitian, Céline Maguet et Anne-Claire Hérault. Et cette carte s'enrichit grâce à vos informations. Elle les attend. On a mis toutes les informations sur la page. On
va oui, très bien.
La carte, le marché vert.
On a entendu parler de cette belle initiative ouais, sur les réseaux sociaux. Vous avez d'autres, d'autres cartes ?
Oui, il y a une autre carte, c'est celle du Collège culinaire de France qui répertorie actuellement 300 points relais et 150 sites de vente en ligne de producteurs sur le site qui s'appelle restaurantdequalité.fr, une carte interactive qui répertorie des gens qui sont membres ou non de cette association d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à vous signaler. Et puis il y a la région Occitanie qui a été assez efficace sur le sujet avec 1500 producteurs et commerçants référencés sur solidarité-occitanie-alimentation.fr. pour commander en direct viande, légumes et fromages. Attention, eux ont privilégié ceux qui pratiquaient la livraison en direct. On a mis toutes les adresses sur le site On va déguster. Et puis il y a aussi la page du site Alimentation Générale pour ceux qui ont des commerces d'autres tailles et d'autres types près de chez eux qui respectent évidemment les règles de sécurité à signaler pour aller soutenir nos producteurs.
Merci. De nombreuses cartes qui font donc office de guide, en privilégiant notamment les circuits courts pour encourager notre agriculture de proximité, notre agriculture paysanne. Merci beaucoup pour ces infos, Estherelle. On se retrouve tout au long de cette émission avec vous. Dominique Hutin, bonjour.
Bonjour François-Régis.
Vous êtes confiné dans le Cotentin. Est-ce que vous profitez quand même un peu de l'air marin ?
Oui. Écoutez, j'entends la mer depuis chez moi lorsque j'ouvre les fenêtres. Donc c'est un luxe.
Vous êtes pas loin d'Agon-Coutainville.
C'est formidable. Alors pour autant, ce matin, j'ai revêtu mon costume de télétravail pour m'adresser à vous. Ça commence par Pi, ça finit par Jama. Étant cabulé à la maison, j'ai choisi de vous éclairer sur un certain nombre de choses. Moi, j'ai la chance de vivre ici à l'année dans un environnement qui est plutôt préservé, et je peux témoigner que c'est un luxe qui se goûte tous les jours, vraiment, évidemment, avec un peu plus de relief encore aujourd'hui en regard de ce que vivent la plupart de nos auditeurs. Mais pour autant, comme nous sommes soumis aux mêmes mesures drastiques de confinement, ici s'organisent plusieurs formes de solidarité, avec au premier rang celle d'entreprises en direction des soignants. La Manche est le premier département de France en matière de production de lait, et la coopérative des maîtres laitiers du Cotentin a fait un premier don de 20 tonnes de produits laitiers en direction des hôpitaux, des maisons de retraite, comme nous le rapporte la presse de la Manche. Et puis, mine de rien, c'est aussi une manière nouvelle un peu d'écrire un lien entre l'alimentation et la santé. Et puis la Manche, c'est aussi 330 km de côte. Et donc, forcément, on a une pensée pour les terribles difficultés que rencontrent en ce moment les pêcheurs, tout comme les agriculteurs, vous l'avez dit. La Manche est aussi le premier département agricole de France. Et évidemment, les incertitudes qui sont liées au marché de plein air les impactent fortement. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà de la nécessité de se nourrir, c'est qu'on voit apparaître des initiatives spontanées par fidélité pour soutenir celles et ceux qui toute l'année affrontent les intempéries ou dans les champs ou même sur les marchés de plein air, justement. Eh bien, ce sont les particuliers qui se regroupent par email et qui commandent auprès des agriculteurs, et le tout est livré en un lieu unique pour satisfaire évidemment aux contraintes sanitaires. Voilà comment un petit peu le terme de terre nourricière peut offrir une lecture alternative. Bref, dans la Manche, si tu ne vas pas au marché, le marché vient à toi.
Très bien, ça s'organise dans le 50. Merci beaucoup Dominique, on va vous retrouver tout au long de cette émission également. En parlant de pêche, eh bien justement, on donne la parole à Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous.
On ne sait pas grand-chose.
Sur ce que disait Dominique.
Oui, parce qu'on ne sait pas grand-chose sur le poisson frais. Peut-on encore en trouver sur les étals ? Justement, vous êtes allé un peu à la pêche aux infos.
Ouais, j'ai parlé hier avec Charles Guiriec, qui est le fondateur de Poisca et le site qui vend en direct partout en France les poissons pêchés dans les conditions les plus vertueuses qui soient. Alors Charles a baissé le rideau le 17 mars dans un contexte très traumatique pour les pêcheurs avec un gros faisceau de problèmes. L'arrêt des exportations vers l'Espagne et l'Italie, très gros consommateurs de nos poissons. Les pêcheurs qui étaient sortis en mer dans les premiers jours du confinement ont vendu leurs poissons à 50 centimes le kilo. Vous imaginez bien qu'à ce tarif-là, c'est plus la peine de sortir. On ne savait pas si les criées allaient rester ouvertes, on ne savait pas si les transporteurs allaient acheminer le poisson. Si on ajoute à ça le fait qu'en temps de crise, le consommateur boude le poisson, s'en détourne. Et voilà comment toute une filière se retrouve sur le carreau en 10 jours, après un hiver dont on sait qu'il est rude pour les pêcheurs, parce que c'est la mauvaise saison et que c'est la saison pendant laquelle on répare ses bateaux, donc ça engendre beaucoup de coûts. Alors ce qu'on peut dire aujourd'hui, certaines criées sont ouvertes, comme Arcachon. Charles Guiriec a rouvert Poisca et son site et repris ses livraisons avant-hier en Île-de-France. Et ce sera mardi partout ailleurs, donc sur poiscaille.fr. Ces temps-ci, ce sont des Saint-Jacques de plongée qu'on va pouvoir trouver, des coques, des palourdes, du merlu de ligne. Le message, c'est vraiment, on achète du poisson de nos côtes, on fait attention à ce qu'on trouve chez son poissonnier, on lui pose des questions, on soutient les pêcheurs français. Et dans le même temps, on essaye aussi de limiter un peu ses livraisons. Donc si on a la chance, comme Dominique, d'habiter près d'une côte, on se renseigne par exemple sur le Facebook de l'association Pleine Mer, @PleineMerAsso, et on consulte leur carte de points de vente direct sur le littoral.
Très bien. Écoutez, c'est parfait. Merci pour ces initiatives, Elvira. C'est vrai que la question du poisson est anxiogène en temps normal. Elle l'est encore plus, effectivement, en temps de confinement. Et on se rend bien souvent compte dans cette crise d'ailleurs que ce sont les artisans qui ont plutôt tendance à trinquer. On l'a vu avec les pêcheurs. Thierry Lallet nous écrit sur Facebook. C'est le patron de la chocolaterie artisanale Sony. Grognon à Bordeaux, il y a aussi la question des chocolatiers. Aujourd'hui, le monde de la chocolaterie artisanale va perdre la saison de Pâques, qui représente jusqu'à 20% de son chiffre d'affaires et sans report d'achat des clients, évidemment, puisque Pâques c'est saisonnier. Un certain nombre de chocolatiers ne s'en relèveront pas, nous dit-il. Pâques va se dérouler uniquement dans la grande distribution, car tous les chocolats industriels sont dans les entrepôts de la GMS depuis des mois. Aujourd'hui, malgré la crise, nous sommes quand même beaucoup à offrir nos chocolats aux différents services de santé des hôpitaux. Merci beaucoup pour eux. Et moi, je voudrais vous signaler une belle initiative, celle de la jeune entreprise Biovor. C'est une plateforme créée il y a quelques années par Géraud Gentric, qui fournit en temps normal de nombreux restaurateurs parisiens en légumes, laitages, viande, exclusivement produits en Île-de-France et en agriculture biologique. Depuis la fermeture des restaurants, Biovor a réorienté son offre à destination des particuliers en Île-de-France pour trouver un débouché aux productions saisonnières de nombreux producteurs franciliens. Alors le principe est très simple, on commande en ligne son panier pour 2, 4 ou 6 personnes avec des prix en plus qui ont été étudiés pour être les plus justes possibles en tenant compte du coût de production de l'agriculture paysanne. Le panier est livré au pied de votre immeuble à distance de 10 mètres et ça permet de maintenir une activité pour les agriculteurs bio de la région parisienne. Voilà, je rappelle quand même que l'agriculture biologique en Île-de-France, c'est quand même quelques 400 fermes réparties sur 20 000 hectares. Biovor.com, toutes les infos sur franceinter.fr. Si vous avez vous aussi autour de vous de belles initiatives à nous signaler, appelez-nous au 01 45 24 7000. Dans un instant, on vous raconte l'aventure citoyenne et solidaire de l'association Ernest, spécialisée dans l'aide alimentaire. C'est juste après, fier et fou de vous. Ça fait du bien, un petit William Scheller sur France Inter.
On pourrait croire qu'on lui fait des misères à sa façon de pleurer sur mes genoux. Mais je veux plus être son papa ni son grand frère. Sont pas des rôles que je peux jouer jusqu'au bout. Pas du tout. Je lui dis à des gens sur terre qui chantent autour. Moi je ne vois rien, je suis fier et je suis fou de vous. Elle s'en fout. Pourtant, est-ce que je peux être plus sincère? J'ai parfois du mal à joindre les deux bouts. Mais depuis l'année où je suis revenu de la guerre, j'ai jamais manqué à ces rendez-vous. Pas du tout, je lui dis à des gens sur terre qui pleurent autour de nous. Moi je ne vois rien, je suis fier et je suis fou de vous. Elle s'en fout. Chante autour de nous.
Crise sanitaire, crise alimentaire, on va déguster grand format s'intéresse à ce sujet en ce dimanche. On sait que s'alimenter est compliqué pour tout le monde, mais devient même critique pour certaines catégories de la population. Les professionnels hospitaliers surmenés dans la gestion de la crise ou encore les personnes en grande précarité. Nous avons en ligne Marie Gérin-Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'Ernest Marie, c'est une association parisienne spécialisée dans l'aide alimentaire de qualité. Alors en temps normal, l'association Ernest qui existe à Paris depuis quelques années, c'est un réseau de 200 chefs solidaires qui financent des actions d'aide alimentaire. Mais, donc par un système notamment de majoration un peu indolore des additions, ce qui permet d'alimenter un fonds pour venir en aide à des familles qui sont dans le besoin, en grande précarité. Mais avec la crise sanitaire, vous avez réorienté votre action en très peu de temps, c'est bien ça? Racontez-nous.
Oui, alors en fait nous sommes un réseau de chefs, donc du coup nous étions en train de faire un pop-up solidaire dans le restaurant des Grands Voisins, qui est un tiers-lieu dans le 14e. Quand tous les restaurants francs sont fermés, donc du coup, il a fallu s'organiser très rapidement. Déjà, nous, on avait une chambre froide pleine, plus tous les restaurateurs de notre réseau qui nous ont appelés en disant « on a des dons, qu'est-ce qu'on en fait ?» l'association Yes We Camp, qui est la communauté, l'association Yes We Camp plus la communauté des maraudeurs de Wanted, la communauté Facebook, on s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Les maraudeurs commençaient à remplir la chambre froide. Et on s'est dit, on va devoir faire quelque chose de tous ces invendus.
Ouais.
Et dans le même temps, on avait aussi des associations, les hôtels sociaux qui nous appelaient en disant, on a des besoins énormes. Est-ce que vous pouvez nous aider?
Les hôtels sociaux, c'est des centres d'hébergement?
Des centres d'hébergement et aussi des hôtels sociaux qui sont vraiment déjà de base tout le temps dans des situations très difficiles. Les personnes qui sont mises en famille dans les hôtels sociaux sont un peu les délaissés de la société. Et là, pendant la crise, vous imaginez que c'est bien pire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réouvert la cuisine de l'oratoire avec des chefs bénévoles et avec des bénévoles. Pour cuisiner toutes ces denrées alimentaires, souvent de qualité.
Et faire en sorte, notamment, j'imagine, de les conserver, parce qu'il y avait certainement des denrées fraîches que vous avez dû peut-être cuisiner, reconditionner, pour mieux les conserver dans le temps?
Totalement. Par exemple, Terroir d'Avenir, qui est un fournisseur des grands restaurants de Paris, notamment de notre réseau, nous a appelé en disant « on a deux agneaux, on a du veau ». Donc les chefs sont venus en cuisine, ont débité les animaux avec Manon Fleury et puis plein d'autres chefs des Marmites Volantes. Et d'autres chefs du réseau Ernest, en fin de journée, en fin de semaine même, ont cuisiné ces plats pour les faire étaler sur la semaine. Donc on avait une blanquette de veau qui avait été commencée à préparer dans le début de semaine et qui avait fini par être envoyée dans les maraude de rue et dans les hôtels sociaux par d'autres chefs en fin de semaine.
Donc vous, évidemment, c'est à l'attention des sans domicile fixe, également des personnes en urgence ou en grande précarité. Donnez-nous une idée du nombre de repas que vous concoctez. Ça se passe plusieurs jours par semaine. Ça représente quoi en termes de quantité?
Alors on cuisine presque tous les jours depuis vendredi 20 mars. On a cuisiné 2000 repas. Avec peut-être une vingtaine de chefs et plus de bénévoles. Chaque vendredi, la communauté des maraudeurs Y28, de toute façon, toute l'année, distribue des repas dans la rue, donc entre 600 et 700. Et là, donc du coup, ils ont augmenté leur maraude, ils ont augmenté la distribution de repas. Plus dans les hôtels sociaux, chaque jour, on envoie entre 100 et 150 repas pour les hôtels sociaux.
Quel genre de plat? On sait qu'il y a des chefs, beaucoup de chefs qui mettent la main à la pâte, vous nous l'avez dit. Allez, Manon Fleury, par exemple, je dis ça parce que c'est l'ancienne chef du Mermoz à Paris, 8e, et qu'on l'a déjà reçue dans cette émission. Quel genre de plat vous pouvez préparer pour qu'on en ait une idée?
On a cuisiné des blanquettes de veau, avec des purées de panais, on a cuisiné des friands de pigeons, on a cuisiné un peu de tout en fait, c'est du patchwork parce que c'est des dons, donc des fois on a deux cagettes de poireaux qui arrivent, puis après on a 200 kilos de poulet qui arrivent, donc on essaye de s'adapter, on cuisine un petit peu à chaque fois dans l'urgence, mais les chefs sont très flexibles parce qu'ils ont déjà l'habitude de cuisiner de saison, ils ont déjà l'habitude d'avoir des petits producteurs.
Donc ils s'adaptent à ce qu'ils reçoivent.
Ils ont ils ont cette flexibilité extraordinaire d'avoir une chambre froide patchwork et d'en sortir, je vous dis, 2000 plats de belle qualité qui n'aillent pas mal d'amour.
Ça fait plaisir. Un peu d'espoir parce qu'il y a un truc qui m'a mis un baume au cœur quand j'ai regardé votre prise de parole, la prise de parole de l'association Ernest sur les réseaux sociaux. Vous décrivez un formidable élan de solidarité. On est à l'inverse du chacun pour soi qu'on peut voir de temps en temps dans les films catastrophes d'Hollywood.
Tout à fait. En fait, on imagine qu'après une crise apocalyptique ou après l'effondrement de la société, on imagine que tout le monde va se ruer sur les stocks de nourriture pour soi-même, pour se protéger. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les restaurateurs nous ont appelés en disant « je veux les donner, je veux pas que ce soit gâché, je veux faire du don, je veux aider à cuisiner ». Et en fait, nous, on a eu plus de 200 demandes de bénévolat. Mm-hmm. On voit cette énergie, je vous dis, ces chefs qui n'hésitent pas à se débrouiller avec ce qu'on leur donne, à faire des beaux plats en essayant de respecter aussi leurs valeurs de circuit court et de partage à travers la nourriture. Et ça, c'est vraiment, cette énergie, elle est extraordinaire. Moi, je la vois tous les jours lorsque j'accueille des nouveaux bénévoles, lorsque j'accueille de nouveaux chefs. Et je vous assure que ça renforce ma confiance dans l'humanité parce qu'en fait, oui, on s'est rué vers les stocks, mais pas pour soi-même. On s'est rué vers les stocks pour les donner à ceux qui en avaient le plus besoin. Et nous, on était déjà dans un réseau de circuits courts. Et je pense que c'est ça qui nous a permis de nous coordonner avec beaucoup d'associations et avec beaucoup de producteurs
en un temps record
en quelques heures.
Très bien, merci beaucoup Marie Gérin-Jean, directrice de l'association Ernest. Je vais vous laisser parce que je sais que vous êtes très occupée, vous êtes sur le pont, vous travaillez pour votre association, c'est beau à voir. Merci beaucoup. Et cette opération, elle est amenée à durer vous pouvez durer sur tout le temps de la crise sanitaire ?
Tant qu'on pourra, on le
D'accord.
fera. On a toujours besoin d'aide au niveau des bénévoles. On continuera à faire de la cuisine, à faire du bien manger. On va même ouvrir une seconde cuisine au Perchoir dans les prochaines semaines à l'initiative d'Écotable pour les soignants.
D'accord.
On souhaite continuer notre action autant qu'on pourra.
Bon courage Marie Gérin-Jean.
Merci.
Et à très bientôt. Nous avons Bernie de Bordeaux en ligne. Bonjour Bernie.
Bonjour.
Vous aviez un message à nous faire passer.
Eh bien, voilà, avec notre association, on distribue des aliments, des denrées alimentaires auprès des plus démunis, auprès des squats, des lieux de vie. On a en renfort logistique l'écolieu Darwin qui nous aide pour la réception des palettes alimentaires que nous est fournie par les fournisseurs des restaurants, au tout début de la pandémie, c'était les restaurateurs eux-mêmes qui nous fournissaient avec l'intermédiaire d'une autre association qui s'appelle les Enfants de Coluche. Et donc on a déjà l'habitude de distribuer dans les squats, mais là les enfants étant là, les papas et mamans qui travaillent plus, qui ne peuvent plus travailler parce que c'est des travails saisonniers, etc., sont aussi là à la maison. Et donc on nourrit aujourd'hui. Cette semaine, nous avons fait 2 livraisons dans les squats pour 776 personnes, et le mercredi et le vendredi. On renouvelle l'opération la semaine prochaine.
Wow.
On espère pouvoir renouveler ça le temps de ce confinement.
Vous-même,
il reste à la maison.
Oui. Excusez-moi, Bernie. Vous-même, vous participez à la distribution, à la préparation des plats?
Alors, non, moi je suis un peu à la logistique, à la coordination.
D'accord.
De tout ça. Donc moi je suis derrière mon ordinateur, mais il y a des bénévoles en fait. Quand les marchandises arrivent à Darwin, on fait la dispatch sur les différents lieux. Il y a une quinzaine de lieux à peu près. On dispatche selon le nombre de personnes par lieu. Et là, il y a ou des camions, parce qu'on a un lieu qui a 300 personnes, ou des voitures de bénévoles qui dispatchent dans tous les lieux. Ça permet aussi aux personnes de rester chez elles bien confinées et ne pas aller
ensuite
dans les supermarchés.
Très bien.
Donc c'est un peu difficile. On tient pour l'instant Mais voilà, les denrées se font rares, ouais. Les denrées alimentaires se font rares. Et il va falloir qu'on achète aussi, donc on a une cagnotte en ligne, enfin voilà.
Ah, si vous avez une cagnotte en ligne, alors restez en ligne, nos standardistes reprendront les références de cette cagnotte et on va la mettre sur le site dont on va déguster. On vous remercie beaucoup Bernie pour cette initiative.
Merci à vous.
On s'intéresse à une autre opération solidaire d'ampleur avec Stéphane Méjanès, bonjour.
Bonjour François-Régis.
Vous allez bien Stéphane?
Oui, écoutez, je vais bien, je vis à la campagne depuis très longtemps, donc j'avais prévu le coup du confinement.
Oui.
Je suis bien loti, je suis pas à plaindre du tout, il y a des gens qui vivent ça dans des conditions bien
oui, pires je crois que vous êtes à la campagne, mais vous ne vous la coulez pas douce, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes journaliste gastronomique et vous avez lancé, Stéphane, une opération de solidarité baptisée Les Chefs avec les soignants. En ce moment même, je crois, vous et les équipes qui travaillent avec vous sont en train de livrer de nombreux repas dans les hôpitaux de Paris et de région. Combien exactement?
Absolument. Alors, pile à l'heure, en fait, on a demandé au chef que tout soit prêt à 9h45. Vous voyez, il est 9h37.
Donc, tout ça va commencer dans quelques minutes.
Ça démarre. Mm-hmm. Donc, nous allons livrer aujourd'hui 1200 repas à Paris et 1500 en province.
Ah, quand même, ça fait
avec une quarantaine de chefs en tout qui auront cuisiné.
Alors vous,
hier et aujourd'hui.
C'est ça, donc ce sont des chefs qui mettent la main à la pâte. Je crois savoir qu'il y a Guillaume Gomez, le chef de cuisine de l'Élysée, qui participe activement à cette opération. D'ailleurs, j'ai essayé de le joindre.
Guillaume est même à l'origine, pardon, François-Louis, c'est vraiment, on est... Voilà,
alors racontez-nous justement, comment est née cette idée?
Alors moi j'ai écrit, vous le savez François-Louis, je travaille tous les jours avec des chefs, avec des restaurateurs, dont je raconte l'histoire. Donc je les connais bien. Quand les restaurants ont été fermés, je me suis dit, il faut écrire une tribune, une lettre ouverte pour les soutenir, pour dire qu'on est là, pour leur dire de ne pas se laisser abattre. Et dans cette tribune, qui a été partagée dans une boucle WhatsApp, dans laquelle était Guillaume Gomez, je disais peut-être que aussi les chefs de cuisine seraient ravis de faire à manger pour les soignants. C'est ce qu'ils savent le mieux faire à manger et faire bien. Donc voilà, j'avais un peu lancé cette idée. J'étais sûrement pas le premier ni le seul, mais en tout cas, avec Guillaume, on s'est appelé, du coup, on se connaît bien. Et il se trouve que Guillaume était en train de travailler aussi à une initiative, il voulait aller dans ce sens-là, et il travaillait en liaison avec l'APHP, donc Assistance Publique Hôpitaux de Paris, mmh. qui est la structure dirigée par Martin Hirsch, qui dirige beaucoup d'établissements à Paris et en Petite Couronne. Et donc, ensuite, moi, j'ai présenté un autre acteur qui est essentiel, sans qui rien ne pourrait se faire, qui est TikTok, donc une start-up.
Oui.
Spécialisé dans la livraison de repas de chef aux entreprises.
TikTok.
Donc voilà, j'ai présenté TikTok à Guillaume, à la PHP, et la mayonnaise a pris en 2 jours. Et la PHP nous a autorisé à livrer des repas. Alors le dimanche, je voudrais vraiment insister, notre opération, ce sont des repas de chef. On ne va pas nourrir, hélas, tous les soignants. Bon d'ailleurs, je pense que c'est d'autres personnes, et j'espère que l'administration s'occupe bien de
sûr.
Le personnel.
L'idée, c'est de leur apporter du réconfort.
Exactement. C'est vraiment un plat de chef avec des bons produits, des produits frais.
Exemple.
Ce font tous les autres. Hein. J'entendais Ernest. C'est formidable tout ce que font. Par exemple, aujourd'hui, Romain Tichenko, que vous connaissez bien.
Et oui, ancien candidat de Top Chef, Galopin Paris 10e.
Voilà. Et à cuisiner des poireaux vinaigrettes beurre noisette, de la ferra et une mousse au chocolat à poire.
Voilà. La ferra, vous évoquez ce poisson d'eau douce hein, qu'on pêche souvent absolument. Dans le lac d'Annecy ou le lac Léman, absolument. Romain Tichenko, est-ce que je crois savoir que vous travaillez évidemment en étroite collaboration avec l'APHP, hein, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, mais pour autant, les régions ne sont pas oubliées?
Non, parce que vraiment c'est parti avec la PHP, donc ils nous demandent de livrer le dimanche, encore une fois dans cette idée de réconfort, hein, pas de nourrir tout le monde, mais de cibler les services qu'on veut soutenir, que la PHP souhaite soutenir peut-être le plus, sans discrimination, mais voilà, c'est comme ça, on peut pas tout faire, tout échanger le monde comme ça en quelques jours. Mais évidemment, comme TikTok a mis en place des plateformes pour que les chefs se recensent, les volontaires. Donc on a aujourd'hui plus de 360 chefs qui se sont portés volontaires. Les hôpitaux aussi ont une plateforme pour dire leurs besoins. Il y a presque 200 hôpitaux qui ont répondu. Et donc évidemment, ça a débordé largement le cadre de la PHP. Et à Paris, en banlieue où des hôpitaux ne sont pas à PHP, et bien sûr en province. Donc aujourd'hui, on va distribuer par exemple à Bordeaux, Nantes, Montpellier, Valence, Angoulême et Caen.
Très bien. Et si on est, cher Stéphane Méjanès, bénévole, chef un peu inoccupé, ce qui est quand même beaucoup le cas en ce moment, il y a toujours possibilité de vous prêter main forte ?
Bien sûr. Alors, merci François-Régis. J'ai vu que vous aviez donné les adresses des plateformes justement.
Absolument.
Sur le site de France Inter de l'émission. Donc, c'est vraiment la meilleure façon aujourd'hui. Il y a une plateforme pour les chefs où ils s'enregistrent et disent « Voilà, coucou, je suis là, je suis à tel endroit, je peux faire tant de portions. » Alors nous, vraiment, on demande aux chefs, on préfère les chefs qui n'ont pas arrêté de travailler, parce que quand même certains ont continué à faire de la vente à emporter, de la livraison. On veut surtout pas briser le confinement. Hein. La règle reste pour tout le monde de rester chez soi. Donc on privilégie les chefs qui soit habitent au-dessus de leur restaurant, soit ont continué à travailler. Après, dans des bonnes conditions, on peut faire aussi autrement, mais comme encore une fois, on n'est pas dans une idée de volume énorme, même si là aujourd'hui c'est absolument formidable cette mobilisation pour distribuer 2700 repas en une seule journée, mais on va pas non plus pouvoir grossir plus que ça. Il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a le problème du bénévolat des livreurs aujourd'hui qui dépensent de l'argent pour pro bono livrer les repas. Donc voilà. Donc bien sûr que tout le monde est le bienvenu et on enregistre tout le temps.
Très bien. Bah, en tout cas, on a mis les démarches pour ceux qui sont intéressés par votre opération, les chefs avec les soignants. Merci Stéphane Méjanès pour tous vos efforts et merci à tous les chefs.
Guillaume Gomez.
Oui, en un mot.
En un mot. Je suis désolé. Vraiment, là, la phase suivante, c'est d'essayer d'agréger aussi d'autres soutiens corporate, comme on dit. Et donc, on est déjà en train de recevoir des promesses de dons. On n'est pas aujourd'hui structuré pour les recevoir, mais on est en train de le faire.
D'accord.
Donc vraiment, toutes les bonnes volontés, les grandes entreprises, les moins grandes, qui voudraient contribuer, même avec des dons d'argent, sont les bienvenues. Elles peuvent prendre langue avec nous et on fera
merci.
Au mieux pour que toute cette chaîne solidaire puisse perdurer jusqu'à la fin de la crise.
Merci beaucoup et bon courage pour cette opération de grande ampleur. Merci beaucoup. On nous écrit alors sur mon compte Instagram, Le Goût du Pain, boulanger à Aigremont en Bourgogne. Bonjour, nous avons également mis en place dans notre petit village, via notre fournil, un système de commande pour fournir les habitants locaux en produits frais, ne serait-ce que pour nos copains de marché, et pour qu'ils puissent écouler leur production. Beaucoup de monde joue le jeu, ça fait plaisir à voir, et on se rend compte ce qu'est un circuit court. Juste avant d'évoquer d'autres initiatives solidaires et d'entendre les témoignages de nos auditeurs, je vous propose le petit bol d'air littéraire de Vincent Josse, une voix bien connue de France Inter. Vincent nous fait voyager en ce dimanche avec Boule de Suif, la fameuse nouvelle de Guy de Maupassant. Un groupe de 10 voyageurs de Rouen fuit l'occupation prussienne, c'est l'hiver 1870. Il fait froid, il fait faim, et nos voyageurs sont confinés pendant des heures dans une diligence censée les conduire en lieu sûr.
L'appétit grandissait, troublait les esprits, et aucune gargote, aucun marchand de vin ne se montrait, l'approche des Prussiens et le passage des troupes françaises affamées ayant effrayé toutes les industries. Les messieurs coururent aux provisions dans les fermes au bord du chemin, mais ils n'y trouvèrent pas même de pain, car le paysan, défiant, cachait ses réserves dans la crainte d'être pillé par les soldats qui, n'ayant rien à se mettre sous la dent, prenaient par force ce qu'ils découvraient. Vers 1 heure de l'après-midi, l'oiseau annonça que décidément, il se sentait un rude creux dans l'estomac. Tout le monde souffrait comme lui depuis longtemps, et le violent besoin de manger, augmentant toujours, avait tué les conversations. Enfin, à 3 heures, comme on se trouvait au milieu d'une plaine interminable, sans un seul village en vue, Boule de Suif, se baissant vivement, retira de sous la banquette un large panier couvert d'une serviette blanche. Elle en sortit d'abord une petite assiette de faïence, une fine timbale en argent, puis une vaste terrine dans laquelle 2 poulets entiers, tout découpés, avaient confit sous leur gelée. Et l'on apercevait encore dans le panier d'autres bonnes choses enveloppées, des pâtés, des fruits, des friandises, les provisions préparées pour un voyage de 3 jours afin de ne point toucher à la cuisine des auberges. 4 goulots de bouteilles passaient entre les paquets de nourriture. Elle prit une aile de poulet et délicatement se mit à la manger avec un de ces petits pains qu'on appelle régence en Normandie. Tous les regards étaient tendus vers elle.
Manger quand on est confiné, c'était Boule de Suif de Maupassant, lu par Vincent Josse. On le remercie chaleureusement et Vincent, on le retrouve pour une rediffusion du Grand Atelier consacré à Michel Legrand tout à l'heure à 15h sur France Inter.
Sur l'envers de l'enveloppe est inscrit, tout en bas écrit en tout petit,
majuscule royale et discret.
drôle de tête, un drôle de soupir. En la retournant de l'autre côté, un nouveau message à décrypter.
Mets-lui des ailes, c'est une déesse.
À cet instant fébrile, j'ai ouvert, et c'est là que j'ai découvert. Est-ce l'être infini qui me l'écrit? La lettre infinie que je relis.
L'être infini, infini.
Infiniment et pour la vie. Ah, l'être infini que je suis.
L'être infini. L'être infini, infini.
C'est bien parce que ta bouche a une fausse note que c'est la perfection divine. Ça frotte quand ça trébuche, que l'on s'incline.
L'être infini, infini.
Voilà soudain à quoi j'ai pensé devant cette lettre immaculée. Est-ce l'être infini qui me l'écrit? La lettre infinie que je relis.
L'être infini, infini.
Infiniment et pour la vie.
L'être infini.
Une lettre dans la lettre, en quelque sorte.
L'être infini, infini.
Une page blanche avec au beau milieu un simple M. Une simple lettre, celle de l'amour avec des ailes.
L'être infini.
Sans un mot, tout est dit. Infiniment et pour la vie.
C'était M avec le titre Lettre infinie. Vous êtes bien dans On va déguster XXL sur France Inter et nous avons au bout du fil Anne. Bonjour.
Oui. Vous nous... Allô, bonjour.
Vous habitez la Vendée.
Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour chacun de nous.
Merci.
Et oui, ben, moi, je voulais parler en tant que consommatrice de notre association Court Circuit. Il y a plus de 10 ans qu'elle existe. Mmh. Et c'est un ensemble de producteurs et quelques consommateurs qui ont mis en place cette association. Et maintenant, nous avons 6 dépôts autour de, enfin, en Vendée, et avec beaucoup de producteurs, des maraîchers, un boulanger, et nous avons la possibilité, enfin, il y a des cueilleurs. Nous avons la possibilité d'avoir beaucoup de produits, des œufs, enfin, tout ce qu'il faut pour survivre. Et depuis le coronavirus,
oui,
nous avons quelques familles qui se joignent à nous pour qui nous demandent si on peut les fournir en produits bio, en produits locaux.
Donc agriculture de proximité. Ça se passe où exactement, Anne?
Alors ça se passe en Vendée.
Mais sur toute la région?
Alors, Vendée Nord.
D'accord. Et je crois que vous avez mis en place aussi un contact par téléphone pour les gens isolés.
Voilà. Alors donc, c'est nouveau, hein. C'est depuis le coronavirus. On a remarqué qu'il y a des personnes qui se sentaient complètement isolées, complètement perdues, et qui font partie de notre association. Et donc, nous avons décidé de faire de pouvoir les contacter par téléphone régulièrement, de façon à pouvoir les rassurer et les écouter dans leur souffrance et dans leur peur.
Mm-mm. Merci beaucoup, Anne, pour cette belle initiative en Vendée. On tâchera aussi là, encore de mettre les infos pratiques pour vous contacter en cas de besoin. Merci en tout cas et restez à l'écoute.
Oui, merci, au revoir.
Au revoir. Je voudrais donner la parole à présent à David Siffert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du secteur fruits et légumes de Biocoop. Alors Biocoop, c'est un réseau de 630 magasins d'alimentation biologique à travers toute la France, et vous avez mis cette semaine en place ce que vous appelez, dans un slogan un peu branché, la Biocoop solidaire attitude. Alors j'imagine déjà que cette solidaire attitude, ça consiste déjà à assurer des conditions de sécurité optimales pour à la fois vos employés mais également vos clients.
Exact. De toute façon, la solidaire attitude de Biocoop, ça fait partie de notre ADN de base. Je veux dire, on n'est pas un distributeur classique, on reste une coopérative.
Oui.
Une coopérative, comme vous l'avez dit, de 630 magasins, mais aussi une coopérative de 20 coopératives de producteurs.
C'est-à-dire que vous fédérez des paysans et qui sont sociétaires de la Biocoop.
Exactement. Et au-delà donc de ces sociétaires producteurs qui représentent 3600 fermes en France, c'est tout un tissu de producteurs locaux qui représentent un peu plus de 5000 fermes sur toute la France, sont solidaires aujourd'hui par rapport face à cette crise et on va dire par rapport à la question donc de devoir s'adapter au niveau de nos magasins. Donc certains ont pris l'initiative de modifier leur plage d'horaire d'ouverture, soit les rallonger, soit les réduire. Il y a eu des initiatives de mise en place d'horaires pour les personnes âgées, de priorité pour les personnels soignants, en accompagnement du respect des consignes des gestes barrières. Ça a été la mise en place d'un plan de nettoyage renforcé. Les services Biocoop livrent actuellement au magasin des produits de nettoyage, du gel hydroalcoolique.
D'accord.
Et ils œuvrent aussi à la livraison d'équipements pour les salariés en magasin, donc des gants, des masques. Et d'ailleurs, par rapport à la pénurie de masques, nous avons pu passer une commande auprès d'un atelier de confection de tissus, les tissus de Charlieu, dans la Loire, qui travaille habituellement pour l'aéronautique et qui, face à la crise, s'est reconverti dans la fabrication de masques tissus en lavable. Et donc c'est un exemple fort d'initiative et de solidarité, et ça jusqu'au bout, parce que ces masques ont été livrés semi-finis sur les plateformes pour pouvoir gagner du temps sur les expéditions et les livraisons, et ce sont les personnels présents sur les plateformes qui ont terminé la découpe de ces masques.
Je comprends.
Donc jusqu'au bout, on arrive à faire preuve de solidarité.
Les employés de Biocoop ont mis la main à la pâte. Parmi ces engagements, il y a celui de maintenir les prix de vente pour le consommateur. J'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, entre guillemets, mais est-ce à dire qu'on assiste à de la spéculation sur les prix des produits? Certains distributeurs en profitent profitent de la crise pour augmenter leurs marges?
Pour l'instant, on a une posture de vigilance, de surveillance. Donc avec nos groupements producteurs sociétaires, dans nos paysans associés, on s'est bien mis d'accord d'être extrêmement vigilants et de surveiller les niveaux de prix dans la distribution pour tenter d'éviter toute spéculation, toute inflation. Donc on est aujourd'hui sur une posture de vigilance, de surveillance. On n'a pas aujourd'hui, on va dire, eu la démonstration d'augmentation de prix, mais on souhaite vraiment conserver cette vigilance pour justement anticiper d'éventuelles spéculations d'intermédiaires ou de distributeurs.
Dernière petite question, on est un peu pris par le temps, désolé cher David Siffert. Pour tous les producteurs qui en font la demande, Biocoop s'engage aussi à procéder à une anticipation des règlements pour soulager la trésorerie de certains paysans, c'est bien ça?
Exactement. Certaines SEM peuvent être aujourd'hui en difficulté parce que donc certaines rentrées d'argent qui étaient prévues ont été stoppées et donc ils ont la possibilité de nous faire des demandes d'avance de trésorerie ou d'avance de règlement.
D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Biocoop s'engage, 630 magasins dans toute la France, agriculture biologique et de proximité. Les produits de nos producteurs arrivent encore jusqu'à vos magasins et c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, en tout cas, David Siffert, de nous avoir fait passer le message. On va retrouver notre chroniqueur vin Dominique Hutin pour buller dans le Cotentin.
On va déguster sur France Inter.
Dominique, toujours avec nous depuis Agon-Coutainville, dans la Manche.
Eh oui, je vous le disais en début d'émission, je vis dans le Cotentin à l'année, donc évidemment c'est un environnement un petit peu préservé, et à ce titre-là je suis un petit peu privilégié, mais de toute façon j'ai fait un petit calcul, grâce à ma cave, je peux tenir un siège de 17 ans à peu près, donc je peux laisser venir voir, et donc je suis dans ma bulle, et tant qu'à être confiné, je propose qu'on redécouvre un petit peu les plaisirs de buller en toute conscience, d'autant que en France, en matière de bulle, on a de la ressource. On peut commencer par exemple par l'eau gazeuse. Non, plaisante. Et on a aussi de la bière, on a du crémant, même si on a peu d'occasion aujourd'hui de se réjouir en ce moment de faire sauter le bouchon. Puis en ces temps d'incantation sanitaire réglementée, on peut se tourner vers une boisson d'extraction naturelle. C'est le cidre. Cidre qui est traversé par un souffle nouveau, comme le mois passé, par exemple, à Cidre Expo, à Caen, qui était le premier salon international du cidre en France, qui a été un formidable laboratoire. On a trouvé du cidre normand, du basque, du danois, du breton, du laiton, des millésimés, des magnums, enfin bon, bref. Tout ça l'a permis de valider un petit peu les thèses que j'avais ensemencées il y a une quinzaine d'années, avec la possibilité de voir émerger des cidres d'auteur, c'est-à-dire des cidres travaillés avec la même ambition que le vin. Alors, pour vous faire toucher au plus près cette nouvelle effervescence, j'ai laissé traîner mon micro à Cidre Expo, et vous allez trouver sur la page de France Inter « On va déguster » un podcast, une immersion cidricole en 13 petits épisodes avec nos amis de Radio Vino. On y parle agroforesterie, prise de mousse naturelle, et vous allez comprendre que si le cidre a longtemps été emmitouflé dans une espèce de cocon traditionnel, un peu confortable, mais finalement assez ankylosant et folklorique, le cidre façon 21e siècle s'affiche en boisson libre et créative, sans renier ses racines de boisson d'extraction agricole, comme l'est le vin. Et puis, grâce à cette jeune génération de producteurs qui capitalisent sur le travail de fond de leurs aînés, l'imaginaire du cidre est aujourd'hui totalement recomposé avec des étiquettes décomplexées, un champ lexical élargi, des cidres de garde. Bref, le cidre, François-Régis, est devenu un objet social bien dans son époque, qui est porteur de considérations environnementales vertueuses. Bref, du neuf, du frais, même si la première mention du cidre en Normandie remonte il y a plus de 1000 ans. Voilà.
Ouais.
Et ce qui fait que le cidre, vous le connaissez, ce cidre, c'est finalement le premier pétillant naturel historique, ce qu'on appelle un pétnat. Et tout ça bien avant les champagnes.
Dominique, on arrive à la fin. Bientôt, il va y avoir le flash de 9h. Vous aviez encore quelque chose de 10h. Vous aviez encore quelque chose à nous dire?
Oui, j'ai retrouvé une trace très ancienne de cette antériorité que j'ai retrouvée pour vous. Et donc, la voici. C'est un chant millénaire.
Aux dernières gouttes de cette mousse, c'est mon verre qui seul s'émousse.
Alors c'est une petite chanson, Dominique, on n'a pas le temps parce que le temps presse malheureusement, mais on va la mettre en ligne. C'est la valse de Milton de Jacques Brel, revue par vous dans votre lieu de confinement dans la Manche. Merci beaucoup Dominique, on vous retrouve tout à l'heure. Dans un instant, la deuxième partie de ce On va déguster XXL, on vous propose une leçon de cuisine confinée avec le chef Julien Dubouet. Tous ensemble sur France Inter, on va déguster au format XXL se poursuit pour consommer, saliver. Vous pouvez d'ailleurs continuer à intervenir. Nous avons nos invités, nos experts, nos chroniqueurs et nos chroniqueuses. Et vous pouvez intervenir, amis auditeurs, au 01 45 24 7000.
On va déguster sur France Inter.
En temps normal à 7h06 sur France Inter, vous avez rendez-vous avec une émission qui vous est chère. C'est Remède à la mélancolie et celle qui prescrit habituellement cet antidote dominical. C'est Eva Bester qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour François-Régis, comment ça va?
Comment ça va Eva? J'ai envie de vous demander comment se passe votre confinement.
Écoutez, je suis dans un petit espace, je pense que c'est pas le plus réjouissant, mais comme pour beaucoup d'entre nous, et il y en a qui sont bien plus à plaindre. Comment ça vous fait quoi alors d'être à l'antenne à 7h? Moi je vous avoue que je prends goût à la grasse matinée.
Oui, je comprends, vous êtes certainement dans votre lit à l'heure qu'il est. Moi je suis tout seul dans le studio 521 de la maison de la radio, évidemment France Inter prend toutes les précautions qui s'imposent. Oui. On est très très loin, je suis très loin de ma réalisatrice Laurent Thomas, j'ai pas tellement le droit d'aller derrière la vitre de la régie. On est un peu comme ça dans un confiné, c'est le cas de le dire. On a la bouteille d'alcool sur le côté avec du papier hygiénique et puis on n'arrête pas d'astiquer le plateau, évidemment. J'ai envie de vous demander, évidemment, Eva, d'habitude c'est vous qui demandez aux invités que vous cuisinez leur remède à la mélancolie. Si vous en aviez un à conseiller à tous nos auditeurs qui vous écoutent et tous ceux qui sont aussi en manque de votre émission qui va revenir bientôt, j'espère, à l'antenne, qu'est-ce que vous auriez comme remède?
Alors écoutez, c'est très simple, je vous dirai tout de suite Les Mille et Une Nuits, parce qu'en fait c'est un livre que beaucoup de gens pensent connaître, mm-hmm. et peu l'ont lu finalement, et il y a, je vous recommande la première traduction d'Antoine Galland qui a été faite au tout début du XVIIIe siècle, et en fait bon, Antoine Galland était un peu prude, donc il a enlevé les scènes trop érotiques, il y en avait énormément dans le texte original, mais les a traduits dans une langue très très belle et très poétique. Et il y a un conte en particulier, est-ce que vous me laissez quelques secondes
Bien
pour
sûr.
Vous en recommander un? Alors, ce sont les amours de Kamar al-Zaman, qui est un prince. Mmh. Et en fait, ce qui est formidable dans ce conte, c'est que ce n'est pas Kamar al-Zaman qu'on va suivre, mais c'est sa fiancée, qui est la princesse Badour, et qui est un héros dans son sens le plus noble, puisque son mari, Kamar al-Zaman, n'est pas très fufute et il passe tout le conte à s'égarer un peu n'importe où et pendant toute l'histoire. Et Badour, la princesse, feint d'être lui et se déguise en prince pendant tout le conte, allant jusqu'à épouser une autre princesse, puisque lors d'un de ses voyages, un roi la trouve tellement noble qu'il lui donne sa fille en mariage, et la nuit, la bagatelle doit être consommée.
Ah, et bien écoutez, très bien, Les Mille et Une Nuits dans la traduction d'Antoine Galland pour voyager quand on est confiné, c'est bien ça. Je sais aussi, Eva, merci pour le conseil de lecture, je sais aussi que vous sévissez sur la chaîne YouTube de France Inter.
Oui, écoutez, comme l'émission est déprogrammée temporairement, il y avait beaucoup d'auditeurs qui me disaient qu'ils étaient en manque de remèdes. Alors les remèdes, c'est toujours éphémère, évidemment. Surtout en ce moment, je me rends compte en parlant avec beaucoup de gens autour de moi que beaucoup sont dans une grande anxiété. Mmh. Et je ne parle pas des gens malades, évidemment, que j'ai aussi autour de moi. Donc j'essaie à petite échelle de ma bibliothèque de pouvoir enregistrer des chroniques sur des livres, voilà, pour divertir quelques minutes les gens que ça intéresserait. Et donc là, la première chronique était consacrée à Vialat. La prochaine sera consacrée à Léopardi, l'incarnation de la mélancolie.
Très bien, bah écoutez, merci Eva, on va vous suivre bien entendu. On a mis en ligne sur la page On va déguster sur France Inter votre lien pour accéder à vos petites chroniques du confinement, des remèdes à la mélancolie à grappiller. Merci chère Eva et on espère vous retrouver très vite sur les ondes de France Inter évidemment.
Ben oui, merci de m'avoir appelé et bon courage à vous.
Merci beaucoup, on a décidément besoin de nourriture spirituelle en ces temps confinés. D'ailleurs, Elvira, vous êtes avec nous ?
Ouais, je suis bien là.
Vous avez également une petite lecture à nous faire partager.
Bah oui, oui, oui. Alors vous les connaissez, ces livres qu'on achète un jour de grande ambition et qui nous narguent ensuite depuis la table de chevet, semblant nous dire « je suis beaucoup trop fort pour toi, mais vas-y, essaye un peu de me lire pour voir ». Alors bien en place sur ma pile de la mauvaise conscience, il y a un livre de Virgile, oui, oui, l'auteur de l'Énéide. C'est une nouvelle traduction de ses Géorgiques que j'ai acheté simplement sur la foi de son titre, Le souci de la terre, et d'une légère fascination pour son traducteur Frédéric Boyer. Frédéric Boyer, c'est l'auteur du très beau Là où le cœur attend chez POL. Mmh. C'est le traducteur de Shakespeare, de Saint-Augustin, du Kamasutra, de la Bible, rien que ça. Alors j'ai fini par me lancer. Et à ceux qui pensaient comme moi que ce texte ne serait qu'un obscur traité de la chose agricole, de l'élevage et de la vigne, un livre très pratique, cette traduction fera l'effet d'une bombe. Alors une partie du livre est bien consacrée à l'élevage, mais c'est d'une beauté, je peux même pas vous dire ce que c'est beau. Ce texte est un chant, c'est un hommage à la nature indomptable, c'est un hommage au travail du paysan, à la précarité du vivant. La question c'est que savons-nous de la terre ? C'est cette question qui anime Virgile et son traducteur, qui pour lui rendre justice, qui pour rendre justice au texte d'origine de Virgile, a pris la liberté de recréer des poèmes dans le poème. C'est-à-dire de versifier en vers libre pour fuir l'académisme qui, selon lui, a rendu ses textes un peu plombants et barbants pour qui n'est pas expert et qui donne un rythme et des couleurs absolument incroyables qui nous saisissent. C'est vraiment le genre de texte à lire ces temps-ci à haute voix sur son balcon pour en faire profiter ses voisins et pour que chacun et chacune entende à quoi peut nous servir un texte rédigé dans la campagne italienne il y a plus de 2000 ans. Je cite Frédéric Boyer,
oui.
« C'était montré qu'il s'agissait d'un grand poème sur la beauté » autant que sur l'instabilité du monde, la guerre, la pensée de la fin des êtres et des choses, la fuite du temps. Je vous en lis juste les tout premiers vers,
allez-y.
Si vous voulez bien. Quoi faire pour le bonheur des champs ? Sous quelle étoile la terre retournée, mécène ? Et aux ormeaux, attacher les vignes comme il faut ? Quel souci des vaches ? Quel entretien pour obtenir des troupeaux ? Et pour les abeilles rares, quelle expérience ? C'est ici que mon chant commence.
C'est beau. On va offrir à notre ami Arnaud Daguin, notre ambassadeur au sein de l'équipe dont on va déguster, l'ambassadeur de l'agriculture du vivant, cette nouvelle traduction des Géorgiques, donc de Virgile, par Frédéric Boyer. Même s'il n'est pas très facile de se procurer des livres en ce moment.
Oui. C'est vrai.
Merci beaucoup, Elvira.
On évite d'acheter sur Amazon, évidemment.
Oui, ben voilà, c'est dit. Ça s'est lâché très spontanément. C'est Elvira qui nous l'a dit. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure, Elvira, une leçon de cuisine confinée avec l'un des chefs chouchous dans la bande dont on va déguster. C'est Julien Duboué. Et ça, c'est juste après. Duo, le titre d'un trio. Philippe Catherine, Angèle et Chili Gonzalez.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On chante la même mélodie.
On chante la même mélodie, mais pas avec les mêmes harmonies.
Je chante à cette octave,
et moi à cette octave.
Je chante les mêmes mots,
pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots,
pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots.
Avec moi.
Ah oui, j'aime faire la musique avec toi. Regarde là-bas le soleil rougeoir.
Je joue du synthé pour toi.
Je joue de la guitare pour toi.
Je joue du piano pour toi.
Avec le même son, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons, et ça nous rend moins cons. Mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
Et la vie, elle a un tempo. Et ce tempo nous impose un grid de 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 60 minutes par heure et beaucoup de secondes. Et nous, il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on enlève pour arriver à notre propre pattern. Notre pattern qui n'est pas terne, qui n'est jamais terne.
Les auditeurs s'expriment dans ce On va déguster grand format. Nous sommes en direct jusqu'à 11h et vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000. Nous avons en ligne Zoé de Grasse.
Bonjour.
Bonjour Zoé. Racontez-nous.
Alors, je voulais vous proposer une idée parce que en fait, on est une famille de 4 là à la maison à Grasse. Mmh. Et on voulait un peu pimenter notre confinement avec un concours de cuisine.
Génial.
Donc, chaque jour, en fait, c'est une personne qui cuisine. Et à la fin de la semaine, on fait une espèce de comment dire, de vote, oui.
de vote. Un bulletin secret, j'espère.
Qui a cuisiné le mieux cette semaine.
ça peut aussi être une bonne idée pour semer la pagaille dans la famille, quand même, non?
Oui, mais alors, on est une famille joueuse. Et mon père avait proposé qu'on cuisine ensemble, mais il n'y a pas d'esprit de compétition dans cuisiner ensemble. Donc, ça ne marche pas.
Il a commencé quand, ce concours?
Il a commencé la semaine dernière.
Donc c'est un concours par semaine, c'est ça?
C'est la deuxième édition, là. Enfin, deux semaines.
On peut savoir qui a gagné ou pas?
Alors, la semaine dernière, c'était mon frère, parce qu'il avait fait un espèce de shawarma, un peu... Ouais,
donc là, vous évoquez un sandwich oriental avec un peu de viande, une petite sauce, du pain, j'imagine.
Poulet, oui.
Ah, shawarma poulet, bah, poulet, magnifique.
Ouais, parce qu'on fait avec ce qu'on a. Il y a une règle, c'est on fait avec ce qu'on a, on va pas faire les courses pour juste pour un truc, et on fait les courses une fois par semaine.
Et vous, Zoé, vous avez fait quoi?
Alors là, cette semaine, j'ai fait un espèce de grand buffet mexicain avec le livre Paris-Mexico que vous... aviez présenté dans votre émission, je sais pas si...
Ah, mais oui, bien sûr, je m'en souviens très bien, absolument, il y a quelques années.
Et du coup, j'ai fait plein de petits trucs, j'ai pas fait un grand repas, parce que j'avais pas de quoi faire un grand repas, mais j'ai fait plein de petits trucs, j'ai fait des tostadas, et les œufs avec les deux sauces, rouge et vert, je sais pas si vous voyez.
Mais je vois très bien, bravo Zoé, la recette est d'ailleurs encore en ligne, voilà. Sur, vraiment bravo, oui.
Et on n'a pas encore voté cette semaine, mais je pense que je vais gagner.
Avec ça, justement. Avec le buffet mexicain. Très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que dans votre famille, on reste confiné, mais on voyage dans l'assiette. Continuez, concours de cuisine, voilà une super bonne idée. Je suis persuadé que vous allez donner l'exemple à de très nombreuses familles. Merci beaucoup, Zoé, vous nous appeliez de grâce. Nous accueillons dans ce « On va déguster grand format » Julien Duboué, bonjour.
Bonjour.
Ça va, Julien?
Très très bien.
Cuisinier landais, connu comme le loup blanc sur la scène culinaire parisienne, à la tête de Boulhomme, alors c'est rue Ordonnère, Paris 18e. On vous a accueilli de très nombreuses fois au micro dont on va déguster parce qu'on aime votre cuisine engagée, généreuse et familiale. Mais tout d'abord, donnez-nous, cher Julien, des nouvelles de l'écosystème Duboué. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait à l'arrêt.
Non, on a gardé la boulangerie ouverte. En fait, on a tout fermé le jour où on nous a demandé de fermer. Mmh. Et pendant qu'on faisait le nettoyage le lundi, mardi, énormément de clients nous ont demandé à rester ouvert en boulangerie. Mmh. Donc, on a rouvert dès le mercredi. Et effectivement, pour le grand bonheur de tous les clients du quartier, en fait. Et étant donné que les cuisines n'étaient pas utilisées, on s'en est servi pour faire à manger pour quelques aides-soignants.
Parce que effectivement, il y a ça aussi. Vous êtes assez modeste sur cette histoire, mais on sait que vous préparez par ailleurs des pains, des viennoiseries, des plats chauds que vous offrez au personnel soignant qui se présente chez Boulogne.
Oui, effectivement, on a fait ça dès le début, dès le lendemain de notre confinement, enfin dire même en restauration. Mmh. Et beaucoup de clients en fait du quartier sont venus chercher leurs plats, donc c'était plutôt cool. Alors maintenant la chose a un peu grandi parce qu'il y a de plus en plus de besoins dans les hôpitaux, donc on s'est greffé à plein de groupes, comme celui de Stéphane dont il parlait tout à l'heure, avec d'autres producteurs qui ont pas mal de produits à passer, donc on a agrandi un peu les quantités maintenant et on livre beaucoup plus aujourd'hui.
Très bien. Julien, le consommateur qui fait ses courses en période de confinement se pose beaucoup de questions ces temps-ci sur la question du pain, avec éventuellement le risque qu'il puisse véhiculer le virus. Est-ce que vous sentez cette inquiétude auprès de votre clientèle?
Alors non, écoutez, on l'a pas eu du tout encore, mais peut-être que ça va venir. On suit les règles sanitaires au point, donc c'est-à-dire que nous, notre pain, il sort du four à 270 degrés, donc autant vous dire que là, il n'y a pas de microbes. Il est réceptionné par un vendeur avec des gants et un masque, et il est juste mis devant la boutique, et il est vendu dans la demi-heure ou l'heure qui vient, puisqu'on cuit plusieurs fournées par jour, donc toutes les heures, on cuit du pain pour avoir un pain ultra frais, comme tous les jours.
Ouais.
Donc non, pour l'instant, on n'a pas eu de remontrance là-dessus, et puis bon, de toute façon, on respecte une personne dans la boulangerie, une par une, avec toutes les règles sanitaires au possible. Quoi.
Et précisons que vous faites votre pain avec vos propres farines biologiques issues de vos propres productions.
Exactement, on en pain sur levain et on produit ce pain avec des farines issues du sud-ouest et énormément du village même où mes parents habitent.
Précisons que l'Agence nationale de sécurité sanitaire sur l'alimentation préconise de mettre sa baguette de pain 4 minutes au four à 63 degrés. Cela permet de diviser par 10 000 le risque de contamination. Julien Duboué, chef landais à Paris, vous êtes confiné en famille et on va voir comment vous nous aidez sur Instagram et sur la chaîne YouTube aussi, comment vous aidez vos fans, tous les gourmets à réaliser des recettes simples et équilibrées avec des ingrédients de base et très peu d'ustensiles.
Bon, mais je vous ai fait un tuto pâte sablée, et là aujourd'hui on va l'utiliser
à l'effet étal. Et aujourd'hui, on va l'utiliser pour faire des chocos. Donc, on va détailler notre petite pâte sablée avec un porte-pièce et à l'intérieur, on va y glisser une ganache chocolat.
Elles sont géniales, vos vidéos, on les a mis en ligne. Merci. Sur franceinter.fr, on entend des petites voix d'enfants qui mettent la main à la pâte au sens propre et évidemment au sens figuré, apprendre à faire une pâte brisée, une tarte au fromage blanc, des graissins, vos tutos ont pas mal de succès. Allez, moi j'aimerais que vous conseillez à tous ceux qui nous écoutent, et je peux vous dire qu'ils sont nombreux, une première recette toute simple quand on est confiné, faire une pâte à pâte. Qu'est-ce que ça coûte?
Ouais, pour faire des pâtes fraîches, tout simplement.
Ah, mais moi, vous n'êtes pas italien.
Dans les supermarchés pour acheter des pâtes, donc ce qui nous prend, on va dire, 10-15 minutes plus 20 minutes d'attente, parce qu'il y a la queue énormément dans toutes les grandes surfaces en ce moment. Donc là, je prouve qu'en 15 minutes, on peut réaliser une pâte à pâtes fraîches. En plus, on va en faire 1 kilo, ce qui va nous servir toute la semaine. Donc,
ah oui.
Ça nous sert très bien sous un papier film dans la semaine. Et avec ça, on a fait plein de recettes complètement différentes. Donc le premier jour, on a fait des petites boules qu'on a écrasées avec le pouce pour faire des oreillettes.
Et oui, les fameuses, ça veut dire en italien petites oreilles, hein, d'ailleurs.
Exactement, ouais. Avec les enfants, donc c'est bien, on en profite aux enfants pour leur faire compter des petites boules, pour les écraser avec le pouce et ensuite les cuisiner. Donc on a mis toutes ces recettes sur les réseaux sociaux. Ça, c'était le premier jour d'ailleurs. Il y a eu un franc succès. Donc ben, on s'est appliqué à faire plein de recettes différentes de pâtes.
Génial.
On a fait des grosses tagliatelles, où on a fait des pâtes carbonara végétales.
Et tout ça, donc, Julien, tout ça, Julien, sans laminoir, c'est important parce que d'habitude on est un peu réfréné, un peu réticent à l'idée de faire des pâtes fraîches à la maison, notamment parce qu'il faut ce fameux laminoir. Vous savez que la manivelle pour où ça peut se faire de manière mécanique. Mais là, il s'agit uniquement, c'est low-tech entre guillemets votre stratégie. Il s'agit uniquement d'avoir d'avoir en fait un rouleau, hein.
Exactement.
Les proportions, en un mot?
Les proportions, alors c'est facile, c'est un œuf pour 100 grammes de farine.
Ouais.
Donc si on fait 1 kilo de farine, on va mettre 10 œufs, deux grosses pincées de sel. Moi, je mets un tout petit filet d'eau, on peut rajouter un filet d'huile d'olive. Et alors, ce que j'ai fait, moi, pour avoir une typicité différente, j'ai remplacé 100 grammes de farine sur le kilo, en fait, par 100 grammes de farine de maïs. On peut mettre de farine de châtaigne, etc.
C'est
ce qu'on a à la maison. Donc, on apporte une belle typicité à la pâte, quoi.
Splendide. Et d'ailleurs, il y a tous vos tutos aux pâtes, encore une fois, dont on a mis les références sur... d'abord, c'est sur vos réseaux sociaux, mais également sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Vous restez avec nous, évidemment, Julien. Jusqu'à 11h, on va évoquer d'autres recettes avec vous. Nous avons Catherine de Nancy en ligne.
Oui, bonjour.
Bonjour Catherine.
Bonjour François-Régis.
Vous avez, je crois, fait une trouvaille, c'est ça, dans votre bibliothèque?
Oui, c'est un livre de ma grand-mère qui s'appelle « Cuisine et restrictions » d'Édouard de Pomian.
Ah.
Donc c'est un livre de 1940.
Oui.
Et Édouard de Pomian, c'est un peu votre grand-père en radio.
Merci. Oui, j'avais envie de dire ça parce que
tout premier.
Je connais évidemment Édouard de Pomian. Alors, il y avait en plus de moi d'être quand même scientifique, chercheur à l'Institut Pasteur.
Oui, tout à fait.
Mais c'est vrai. Exactement. Que c'était un animateur de chroniques culinaires radio. Les premières chroniques culinaires radio, c'était Édouard de Pomian. C'était très suivi sur la TSF. Ouais, ouais. Je connais un peu cet ancêtre professionnel. Et ce livre, qu'est-ce qu'on y trouve comme stratégie justement? Ça veut dire quoi, cuisine et restrictions? On est en 1940, j'imagine que tous les produits de nécessité venaient à manquer. Édouard de Pomian proposait justement des trucs et des astuces pour contourner justement les produits victimes de pénurie.
Absolument. Et en fait, on est à l'automne 1940, donc après l'exode et l'instauration de l'étiquette de rationnement. Et donc, il y a un peu un listing de tout ce qui manque, c'est-à-dire à peu près tout. Tout ce qu'on peut acheter avec des tickets de rationnement, c'est-à-dire presque tout. Et la seule chose qui ne soit pas rationnée, ce sont les légumes.
Ah.
Et donc, il y a beaucoup de cuisine avec des légumes.
Cuisine végétale.
Et voilà, cuisine végétale, mais également comment cuisiner des plats avec... comme on ne peut pas faire de sauce parce qu'on n'a pas de gras, on va mettre des légumes à la place pour faire un jus plutôt qu'une sauce. Et en fait, c'est pas trop une habitude à l'époque de faire de la cuisine végétale. Donc, il y a beaucoup de recettes qui sont un petit peu modifiées, mais le moins possible, et qui se terminent par ça serait possible si tel ingrédient était à disposition.
Très bien, écoutez, on va se replonger dans Cuisine et restrictions d'Édouard de Pomian. Ce fut un best-seller de l'année 1940. Nous n'en sommes pas encore là, heureusement. Mais merci pour ce clin d'œil, Catherine de Nancy, et je vous souhaite un excellent dimanche.
Merci.
On apprenait avec Estherelle Payani la semaine dernière à utiliser des farines bizarres pour contourner la farine de blé qui est dévalisée, on le sait, dans les rayons des grandes surfaces. Un autre produit de base est sous pression, ce sont les œufs, régulièrement en rupture de stock dans nos supermarchés. Que faire ? C'est la chronique d'Estherelle Payani.
France Inter. On va déguster.
Comment se passer d'œufs dans des recettes qui en nécessitent pourtant ? C'est le défi que vous relevez, Estherelle.
Oui, c'est tout à fait possible de le faire, d'autant plus qu'en ce moment, on mange tous à la maison, et c'est pour ça que les rayons sont dévalisés, tout simplement. Selon un article du Parisien, les commandes des supermarchés sont en hausse de 60%, et comme on est tous chez nous, ça monte très très vite pour une famille, même si on fait pas d'œufs à la coque à tous les repas. Il n'y a pas de pénurie réelle pour autant, je vous rassure, car les œufs qu'on consomme d'habitude dans les cantines ou les restaurants vont continuer à approvisionner le marché. Mais si vous aussi vous êtes à sec côté œufs, on va déjà commencer par regarder du côté des recettes véganes et des recettes pour allergiques aux œufs. D'ailleurs, je vous rappelle notre émission que vous avez consacrée au tofu. Déborah Dupont nous avait mijoté des bluffants œufs durs de tofu, ou alors on a fait faire aussi une omelette avec du tofu soyeux mélangé à des champignons ou des épinards qui font de très bons simili-œufs brouillés. Après, si vous avez votre recette habituelle que vous cherchez à adapter, la première question à se poser, c'est se demander à quoi sert l'œuf. En fait, s'il n'y en a qu'un seul, ça va être très facile de le remplacer. Petit exemple, quand on fait du poisson ou du poulet pané. Alors, petit rappel pour les débutants en nuggets maison, quand on tombe pas un ingrédient, il faut d'abord le rouler dans la farine, quand il nous en reste, puis l'œuf battu, et pour finir dans la chapelure. L'œuf sert tout simplement de colle, alors on peut le remplacer par un peu de moutarde ou de sauce tomate appliquée au pinceau. On peut aussi faire pareil quand on dort des sablés. Au lieu de badigeonner avec de l'œuf, on peut badigeonner avec du lait, et ça sera doré tout pareil. Un autre remplaçant pratique que je vous incite à découvrir, ce sont les fruits écrasés. La texture de la compote de pomme ou de la banane, ça va assurer la même fonction liante que l'œuf. Alors là, comme on approche de l'heure du petit déjeuner, je peux vous signaler des pancakes, une banane écrasée, fait avec un demi-verre de lait, 12 centilitres environ, 100 grammes de farine, de la levure chimique, et hop, on les cuit comme d'habitude, ça va marcher pareil. Vous pouvez faire pareil avec des crêpes, en remplaçant l'œuf par de la fécule de pomme de terre ou de l'amidon de maïs. 200 g de farine, 50 cl de lait, 50 g de maïzena. Les crêpes seront un petit peu plus délicates à cuire. Faites attention quand vous les retournez, mais elles seront juste parfaites avec de la confiture. Et puis même, on peut aller jusqu'à combiner la pénurie d'œufs et la cuisine anti-gaspi. Par exemple, si vous faites du houmous avec des pois chiches en conserve, par pitié, ne jetez surtout pas le liquide gluant qu'il contient tout au fond. Ça s'appelle de l'aquafaba et on en a parlé dans notre émission consacrée aux pois chiches. Ce liquide magique a les mêmes propriétés que le blanc d'œuf. Avec, on peut faire des macarons, des meringues ou de la mousse au chocolat. D'ailleurs, Angèle Ferrumec nous avait donné une délicieuse recette de mousse au chocolat.
Je m'en souviens.
Sur le site.
Bien sûr.
Et puis, il y a des remplaçants moins communs que vous n'avez pas forcément dans vos placards, sauf si vous faites beaucoup de cuisine végétale. Vous avez l'agar-agar, un super gélifiant qui sert pour des crèmes dessert et des terrines sans œuf. Et les graines de lin. Vous savez qu'on recommande de broyer sur les salades pour apporter des oméga-3. Eh bien, une fois broyé et mélangé à de l'eau, se transforme en une sorte de mucilage.
Oui, c'est ça.
Autrement dit, un liquide visqueux qui va remplacer le blanc d'œuf. Et c'est parfait pour lier des boulettes de viande ou pour faire tenir une pâte à biscuits. Et puis après, quand même, on peut compter toujours pour remplacer les œufs sur de bonnes vieilles réactions chimiques. Par exemple, le jus de citron qui fait cailler la crème, c'est la base de la petite recette que je vous propose tout de suite à réaliser pour votre dessert de ce soir.
Allez-y.
Avec trois ingrédients, ça s'appelle le posset, donc le British posset au lemon. Il suffit de porter à ébullition 50 cl de crème entière avec 130 g de sucre en poudre. Vous ajoutez le jus et le zeste de deux citrons en continuant à faire bouillir 30 secondes sans cesser de mélanger. Ça va rester liquide, c'est normal, vous versez dans des verrines et puis vous placez au réfrigérateur. Ça va épaissir tout naturellement en laissant ça 3 heures au frais. Vous mangez ça avec un petit sablé et c'est aussi bon qu'une tarte au citron.
Oh, est-ce que Elvira est là ?
Bien sûr, je suis là.
Est-ce que vous validez cette formidable recette d'Estherelle Payani,
Lemon
Posset, vous qui êtes anglophile et anglophage ?
Et j'adore les desserts british et surtout le posset. Je suis ravie de cette recette.
Eh ben écoutez, on va la pratiquer à la maison. Tous à vos citrons, évidemment. Merci les filles. C'était une très belle recette qu'on peut retrouver. Toutes les infos également, les stratégies sans œufs d'Esther El Payani sur franceinter.fr à la page On va déguster. Avant de vous libérer, Dominique Hutin, vous avez peut-être une petite astuce à nous confier depuis votre lieu de confinement dans le Cotentin. Je tiens à préciser qu'on a un peu coupé la chic à Emmanuelle, votre femme, qui avait entonné une très jolie chanson. Mais on va la mettre en ligne parce qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée. Mais désolé, on a des petits problèmes d'horloge à distance. On peut pas communiquer de la même manière.
Vous avez raté le grand best-seller du XXIe siècle. Tant pis, on pourra l'entonner ensemble la prochaine fois. Alors moi, ça va, je suis confiné, mais en bonne compagnie. J'ai ouvert un cidre, celui de la chronique tout à l'heure. J'ai mis toutes les coordonnées sur le site internet. C'est Caroline Leroy, un cidre du Limousin. Alors quand on est confiné, on peut rencontrer des petites difficultés pour allier la boulangerie, par exemple, et entretenir le stock de pain frais. J'ai une petite astuce pour ressusciter le pain rassis. Ce sera simple. Il vous faut un grille-pain. Du pain que vous allez couper en deux tranches, mais suffisamment fines pour pouvoir être glissées toutes les deux l'une contre l'autre dans le grille-pain, et elles vont ressortir chacune avec une face grillée et une face, celle qui est en contact commun, fraîche et tendre. Et là, vous aurez un, du pain onctueux, et deux, en prime, le plaisir du pain grillé. Alors quand même, je cherchais une explication rationnelle à cette histoire-là, et je suis tourné vers Stéphane Lagorce, qui est un chef savant, oui, une espèce de multi-instrumentiste, qui est auteur du grand précis des fruits à éplucher, qui va bientôt paraître. Il m'a rapporté qu'en fait, c'est l'amidon qui durcit le pain en vieillissant, et donc en le réchauffant au grille-pain, l'amidon retrouve sa souplesse de pain frais. Voilà.
Ben voilà, et bonne idée.
Pour aller avec... Pardon ?
C'est une bonne idée.
C'est une bonne idée. J'en ai eu une autre. J'ai planté des radis comme ça. Si jamais l'argent venait à manquer, planter des radis, vous voyez, ça peut être une bonne idée pour la suite.
Ceci étant, les radis, c'est 18 ou 25 jours de pousse. C'est effectivement assez pratique en confinement, même sur une jardinière, sur son balcon. Merci beaucoup, Dominique.
C'est l'idée. Vous les trouvez dans les grandes jardineries ou les magasins d'alimentation, et puis les biocopes, par exemple. Et en 18 jours, hop, c'est plié.
Merci, Dominique. On vous souhaite un très bon confinement. On vous retrouvera sans doute dans On va déguster, une petite pause musicale avant de retrouver les nouvelles recettes de Julien Dubois et notre chef invité Hound Dog Big Mama Thornton, qui a d'ailleurs été repris entre autres par Elvis Presley et Jimi Hendrix. Rien que ça, un bon vieux blues pour garder le moral et l'appétit sur France Inter.
You ain't nothing but a hound. Snooping round my door.
On va déguster continue jusqu'à 11h et nous sommes en ligne avec Maurice de Nîmes. On est dans le département du Gard.
Oui, bonjour.
Bonjour Maurice.
Bonjour ma belle et douce France Inter.
Merci.
Donc je vous donne la recette du pain d'épices.
Oui.
Je fais deux pains d'épices à la fois parce que c'est le même boulot que pour un.
Ouais.
Et il n'y a pas de produits frais.
Ah.
Donc, mettre chauffer le four à 150 environ.
Oui.
Dans une casserole, verser 2 verres de lait avec 4 cuillerées à soupe de miel. Je mets du miel de châtaignier parce que c'est un peu plus relevé. Donc l'ensemble, le faire chauffer à feu très doux dans la casserole. Donc 2, 1, 2, 3, enfin vous voyez. Mm-hmm. Dans un saladier, 4 verres de farine, 2 verres de sucre roux, 2 cuillerées à dessert de bicarbonate de soude, 2 cuillerées à dessert d'anis vert en poudre.
Ah, les voilà les épices.
Bien mélanger avec les mains. Mmh. Ensuite, verser le lait plus le miel dans la farine plus sucre plus bicarbonate plus anis vert. Bien mélanger avec une cuillère. Très bien mélanger en cassant les grumeaux qui peuvent rester. Mmh. Beurrer les moules en alu parce qu'en métal ça ne chauffe pas, enfin ça ne cuit pas. Et verser le mélange. Ensuite, mettre au four et vérifier la cuisson après 30-35 minutes. Et c'est là que c'est très important, la cuisson. Donc, bien surveiller toutes les 3-5 minutes en plantant un couteau dans le pain d'épices.
Magnifique. Voilà. Et on obtient un délicieux pain d'épices. C'est le pain d'épices de Maurice sans produits frais. Ben, écoutez,
alors,
je crois
après, il faut le mettre dans du papier alu.
D'accord. Ah.
Donc là, c'est aussi très important. Il faut
l'envelopper,
nettoyer dans du papier alu très vite pour qu'il reste moelleux. Sinon, il se sèche.
Sinon, il se sèche.
Il n'est pas bon du tout. Et ensuite, le déguster quand il est un peu rassis, 4 ou 5 jours après qu'on l'ait cuisiné, en fait.
Ça me plaît. Estherelle.
Pardon.
Estherelle, vous validez cette recette de Maurice?
Oui, alors moi j'aime bien dedans rajouter un petit zeste d'orange que je fais infuser dans un soupçon de lait que je mets pour détendre la pâte, pour ajouter une petite touche d'agrumes. Voilà.
En voilà une très belle idée. En tout cas, c'était un pain d'épices. Maurice a pensé à vous, sans produits frais, donc sans œufs.
Tout à fait, mais traditionnellement, il n'y a pas d'œufs dans
le
pain
d'épices. Oui, absolument. J'étais en train de me poser la question. Il me disait, mais non, mais il n'y a pas d'œufs en fait dans le pain d'épices. Mais comme quoi, ça peut être une très bonne recette de dessert en plein confinement. Surtout quand on sait que vous nous l'avez expliqué, que les œufs se faisaient rares. Merci beaucoup, Estherelle. Et merci, Maurice de Nîmes. Et bon pain d'épices. Vous êtes là, Julien Dubouet?
Je suis toujours là.
Alors, autre recette que vous allez nous enseigner, qui fait également l'objet d'un tuto sur vos réseaux sociaux, c'est la fameuse pâte brisée. Très souvent, on est flemmard, on se contente de l'acheter prête à dérouler avec tout ce qu'il faut d'emballage plastique de rayons frais du supermarché. Vous avez une recette toute simple pour une pâte brisée à la maison qu'on peut ensuite décliner de 1000 façons. Racontez-nous en 3 gestes cette pâte brisée.
Oui, très simple et en 3 gestes, effectivement, en 5 minutes, c'est réalisé. Donc j'ai mis 500 g de farine sur un plan de travail.
Oui.
J'ai mis au centre 250 g de beurre pommade avec 2 œufs, une pincée de sel et 2 ou 3 pincées de sucre. Et j'ai malaxé tout ça pendant 5 minutes. Voilà, ça m'a pris 5 minutes et j'ai 2 pâtes brisées donc pour réaliser 2 gâteaux. Moi j'en ai gardé une. D'ailleurs aujourd'hui je vais faire une tarte aux fraises. La petite veut une tarte aux fraises.
Donc, avec les premières fraises françaises
Comment?
Avec les premières fraises françaises.
Avec les premières, exactement.
C'est là où Julien Dubouet me répond non, avec les gros mastodontes rouges qui nous viennent d'Espagne.
Non, hors de question. Mais d'ailleurs, ça fait quelques mois qu'elle me demande la tarte aux fraises. Je lui dis non, on n'a pas le choix, il faut attendre.
Bon réflexe.
Que le soleil, quand il y aura le soleil, elle me dit oui, voilà, quand il y aura le soleil.
Et dites-moi, Julien, cette pâte brisée, on peut. Alors là, c'est la version sucrée, mais on peut aussi, pour faire une quiche Lorraine ou autre chose, pour faire des tartes aux légumes, la décliner en salé, cette pâte brisée.
Oui, bien sûr, comme j'ai dit, là j'ai mis 3-4 pincées de sucre, mais on peut ne pas en mettre. Et puis même s'il y a 2 ou 3 pincées de sucre, on peut l'utiliser pour une quiche, bien entendu, ou pour faire une tourte, etc., etc., ou un pâté en croûte, par exemple, d'ailleurs. On peut s'amuser de plein de façons différentes. Nous, on a fait des Mikado, donc on a fait des petites bandes que l'on a roulées, on les a trempées dans du chocolat.
Bonne idée.
Donc on a fait des Mikado avec.
Des Mikado artisanaux.
Exactement, il y en a une autre où on a étalé plutôt fine et on a dessiné dedans, on a détaillé des petits ronds en fait avec un emporte-pièce où on a décidé d'orang et un petit sourire, et qui nous a donné des fameux chocos, dans lesquels on a glissé une ganache chocolat, qui est très facile à faire, où j'ai juste fait bouillir 200 grammes de crème et j'ai jeté dedans 200 grammes de chocolat. Mmh. On a laissé refroidir et on a inséré ça à l'intérieur de nos deux palets de pâtes vérisées, et ça nous a donné des chocos.
Splendide. On va se retrouver dans un instant, Julien, parce qu'il y a une recette qui nous fait sacrément saliver, vous l'avez spécialement préparée pour nous. La vidéo va être en ligne dans quelques instants sur vos réseaux sociaux et sur notre page sur France Inter. C'est un coulant au chocolat, je vous raconte pas, mais on va repasser un peu au salé avec Elvira Masson, boîte de sardines, boîte de thon, boîte de maquereau, que faire avec ?
On va déguster. Sur France Inter.
Elvira, vous allez nous apprendre à déconfiner ces poissons en conserve avec un peu de poésie et pas mal de créativité.
Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles, parce que moi, j'imaginais que les... J'étais assez mal renseignée, en fait. J'imaginais qu'on pouvait pas faire tellement plus vertueux, aussi bien en termes nutritionnels que d'éco-responsabilité, que les boîtes de thon et de sardines. Mmh. Mais c'est pas franchement le cas. C'est ce que j'ai découvert de nouveau en discutant avec Charles Guiriec, que je citais tout à l'heure, le fondateur de Poiscaille. En réalité, il y a un vrai gros problème de traçabilité avec les sardines, et pas que de traçabilité, d'ailleurs. Il n'y a pas assez de pêcheries de sardines en France pour assurer la production dont on a besoin pour les conserves. Donc on importe pas mal de sardines du Maroc ou d'ailleurs. Par ailleurs, la pêche au thon, pour le thon en boîte, se fait en France souvent, enfin une grande partie de l'année, au chalut de fond. Même certaines conserveries qui ont plutôt bonne réputation travaillent avec des grosses flottes qui ont des pratiques de flibustier. On trouve bien du thon de ligne en boîte, mais il vient souvent de l'océan Indien, où les pratiques de pêche sont pas forcément vertueuses. Alors il y a quand même quelques exceptions, notamment la conserverie Jean de Luz à Saint-Jean-de-Luz, qui fait de la bonite à l'huile, qui vient de pêche artisanale. Donc en vrai, pour résumer ce que me disait Charles Guiriec, on regarde au fond de nos placards, on écluse les boîtes de sardines et de thon, et on repasse au frais dès que possible, dès qu'on retrouve du poisson frais sur nos étals. Il n'en reste pas moins qu'on a tous des boîtes de sardines et de thon à la maison, donc j'ai quand même quelques trucs.
Ah.
Je fais notamment une ce que j'appelle une fausse sauce tonnato.
Mais oui, vitello.
En gros, c'est le principe de la sauce. Voilà, c'est ça. C'est le principe de la sauce pour vitello tonnato, mais révisé à la baisse en termes de lipides, parce que sédentarité du confinement oblige, on fait peut-être un tout petit peu plus gaffe
vous
à
m'avez
la
part raconté, lipidique. Vous m'avez raconté que vous faisiez 150 pompes par matin, Elvira.
C'est ça. Non, j'ai un peu menti là. J'en fais 5 en fait, pas 150. Je me suis débarrassée du coup de la mayonnaise que contient la sauce du vitello tonnato, et je passe au mixeur une boîte de thon à l'huile, débarrassée de son huile, avec le jus d'un demi-citron, 2 ou 3 cuillères à soupe de fromage blanc lissé ou de yaourt, voilà pour la matière grasse, un trait de vinaigre rouge ou xérès, on peut ajouter 2 anchois à l'huile, j'ajoute aussi une cuillère à soupe de capre, parce que j'aime bien que ce soit très astringent, du sel et du poivre, on mixe, on peut ajouter aussi un peu de moutarde. On peut aussi ne pas mettre les capres dans le mélange et les ajouter après au moment du service. Et cette sauce s'utilise avec du veau froid, de la noix de veau froide, comme pour trancher finement, comme pour inviter le tonnato, mais aussi comme une sauce de salade César, avec des crudités.
On vous savez à quoi je pense, moi dedans, c'est... Voilà, j'allais dire ça. Non. Vous prenez un radis noir, on l'épluche évidemment, on enlève toute la peau noire. On se retrouve avec des petites rondelles blanches, et là on fait comme ça une espèce de carpaccio légumier. Avec votre sauce, là ça doit marcher fort. J'ai du radis noir à la maison, c'est pour ça que j'y pense.
Très bien marché.
Parfait.
Et j'ai une autre recette que je sais que nous partageons, François-Régis. Ce sont les sardines en boîte de Mitsuko.
Ah, mémoire, ouais. Une cuisinière japonaise installée à Paris qu'on connaissait bien, malheureusement disparue il y a quelques années.
Et qui était une cuisinière absolument géniale. Elle faisait un truc avec ses sardines en boîte, tout simple et assez formidable. On vide une boîte de sardines à l'huile de son huile. Sur les sardines, on dispose de fines tranches de cébette, quelques tranches de gousse d'ail finement émincées, du navet finement émincé également, quoi que ce soit d'autre qui traîne dans le bac à légumes, du chou-fleur, des petites rondelles de carottes, un poireau finement émincé. On arrose de quelques gouttes d'une bonne sauce soja, d'un peu de piment éventuellement, de quelques gouttes de jus de citron si on a, puis un trait d'huile d'olive, et on passe cette boîte à sardines garnie sous le grill du four très chaud pendant 3 minutes, et on sert avec une tranche de pain grillé.
Et on obtient un peu la sensation des sardines fraîches grillées au barbecue. C'est très intriguant cette recette.
C'est ça, c'est exactement ça.
C'est un peu une recette qu'on pratique tous les deux depuis un petit moment. Enfin, même si on vit séparément, je dis juste qu'on l'a en commun, cette recette, évidemment, ma chère Elvira. Ouais. Merci mille fois pour vos trucs.
Merci.
Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Merci Elvira. À présent, celui qui forme le duo avec Christine Masson. On aura tout vu, l'émission cinéma de France Inter, qu'on espère là encore retrouver bientôt à l'antenne. C'est Laurent Delmas, bonjour.
Bonjour François Récis.
Vous êtes aussi notre voisin de bureau. Alors, on parle beaucoup cinéma, mais on parle surtout bouffe tous les deux, parce que êtes cinéphile mais aussi gourmet. Et vous avez trouvé heureusement l'antidote pour saliver en plein confinement.
Oui, bah oui, c'est un film que vous connaissez aussi, qu'on connaît tous, qui s'appelle Alexandre le Bienheureux. Alors, vous savez, en ce moment, sur les réseaux sociaux, tourne en boucle le moment formidable du film où il est dans son lit, hein, Alexandre, il a décidé de ne plus rien foutre, il est dans son lit et il s'est construit une incroyable machine qui fait que, allongé, il peut faire venir à lui des saucissons, de l'ail, du vin, tout ce qu'il faut pour manger, allongé et passer sa journée au lit. Alors Yves Robert racontait d'ailleurs que cette machine qu'on voit dans le film, elle a donné des surfroids à tous les techniciens, parce qu'en fait, elle était extrêmement compliquée, c'est une machinerie de poulies sidérante. Ouais. Je vous conseille pas de la faire, même si on a du temps en ce moment chez soi. Je crois pas que ça soit une bonne idée, mais regardez Alexandre, le bienheureux, avec au pied de son lit son chien, faire ça, c'est formidable. Tiens, d'ailleurs, je vous propose peut-être qu'on écoute quand même cet Alexandre, qui est déjoué formidablement par Philippe Noiret. Là, il est pas dans son lit, parce qu'au fond, dans son lit, il parle très peu, il mange, d'abord, ou il dort, et là, dans son champ, il parle avec son chien. On l'écoute.
Ne bouge pas comme ça, tu me fatigues. Ah, toujours dans mes jambes, toujours à me renifler, à pousser du museau, à faire le guet. Oui, je bouge, tu dors couché en rond, je m'arrête pour attendre, te voilà en arrêt à renifler le vent. Ne bouge pas comme ça, tu me fatigues, que je te dis. Toi aussi, il faut que tu remues, tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? On a le temps, faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps.
Alexandre le Bienheureux, avec Philippe Noiret, évidemment, Yves Robert, un film de 1968. Précisons quand même, Laurent, que ce confinement de notre héros était quand même volontaire.
Hein. Ah, complètement volontaire.
À but hédoniste.
Mais oui, absolument. Vous savez, alors c'est un hommage à un livre qui est un livre sérieux, hein, qui est un pamphlet politique anticapitaliste de Paul Lafargue, qui était le gendre de Karl Marx. Et en 1883, il livre ce droit à la paresse, dans lequel notamment il y a cette citation que je vous livre. Oui. « Paraissons en toute chose, hormis en aimant et en buvant ». Hormis en paraissant. Bien sûr, on ajoutera avec modération, sinon je vais me faire sonner les cloches, mais je vous répète, donc paraissons en toute chose, hormis en aimant et en buvant, hormis en paraissant.
Laurent,
voilà un beau programme qu'on peut appliquer en ce moment.
Et si on veut justement dévorer ce film, Alexandre le Bienheureux, il y a une solution ?
On le voit en ce moment sur Filmo TV, qui est un excellent site de VOD que je vous conseille vivement, et on y accède sans aucun problème pour voir et revoir Alexandre le Bienheureux.
Laurent, vous avez aussi un petit conseil télé à nous livrer.
Oui, ce soir, sur Planète Plus, qui est une des chaînes du bouquet au canal, vous savez, mais en ce moment c'est en clair, donc on y a accès, tout le monde y a accès, à 21h55, on pourra voir le nouvel épisode d'une série documentaire formidable, qui est coproduite par Gédéon Productions et Canal, réalisée par Stéphane Carrel, et ce soir, eh bien, il y a un certain Nordine Labiade.
Ah, ça me dit quelque chose. Nordine Labiade, c'est un chef qu'on aime beaucoup. On y a d'ailleurs gueuletonné pas mal de fois dans son bistrot du 14e. Le bistrot à mi-chemin qu'il tient avec sa femme Virginie.
Jude, je croyais qu'on ne devait pas en parler, mais qu'on y dînait régulièrement ensemble.
On dévoile notre vie privée.
Mais oui, c'est vrai, absolument. C'est une adresse formidable, avec des belles banquettes profondes, des livres au mur, et puis surtout une cuisine formidable. Et une cuisine, comme le nom du restaurant l'indique, c'est exactement ce que fait Nordine Labiade tous les jours. Je vous propose d'écouter un extrait de ce merveilleux documentaire dans lequel, tiens, justement, il nous parle du bœuf bourguignon.
Le bourguignon, c'est le plat du terroir français par excellence. Et je vais utiliser mon épice Ras el Hanout avec, et je vais utiliser avec les mirabelles, et on va les servir avec une petite garniture de semoule brillante avec du curcuma. Il y a tout le temps un fil conducteur, c'est nord-sud. Donc je trouve mon enfance, les plats mythiques, le couscous chez nous, la brillance des épices. Et après, les fruits du Sud, le vin du Sud, et on remonte jusqu'à Paris, qu'on va le déguster. Donc, mon bourguignon, il me rassemble. C'est un plat bronzé, c'est un plat français des cœurs, et métissé de l'extérieur.
Voilà un exemple de plat métissé tel que Nordine Labia, les pratiques au restaurant à mi-chemin. On est rue Boulard, 14e arrondissement. Et nous irons ensemble trinquer Laurent avec toute l'équipe dont on va déguster quand ce magnifique restaurant réouvrira. Vous nous rappelez juste l'heure de diffusion de ce documentaire.
21h55 ce soir sur Planète Plus.
Merci beaucoup. Julien Duboué, il nous reste vraiment une poignée de secondes. Expliquez-nous, c'est un défi en 15 secondes. De toute façon, la vidéo va être mise en ligne sur notre site. Le coulant au chocolat, oh là là, j'ai vu les images, c'est une espèce de volcan.
Bah oui, on a préparé ça ce matin. Donc on voulait du chocolat pour un dimanche. C'est facile, il n'y a que 4 ingrédients, des œufs, un tout petit peu de sucre, un tout petit peu de farine et du chocolat et du beurre, bien entendu. On a fouetté les œufs avec le sucre et on a incorporé le chocolat et le beurre fondu dedans. On a mis ça à cuire très peu de temps, juste 10 minutes à 200 degrés au four. Et génial. Après, en sortant du four, plus que la cuillère à plonger dedans pour le faire couler, quoi.
Merci beaucoup et on remercie aussi Delphine, votre épouse, qui a fait le montage de toutes vos vidéos qu'on retrouve sur vos réseaux sociaux. Merci Julien d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
On est obligé de se quitter. Chacun chez soi, portez-vous bien, mais tous ensemble sur France Inter.